Chapitre 5. Lequel d'entre eux ? Il pleut très fort et le vent fait trembler les fenêtres de la maison. Vera et Lombard sont assis devant la fenêtre du salon et échangent leur point de vue.
« Sionime est l'un d'entre nous, » dit Vera. « Qui est-ce à votre avis ?»
Lombard pense au juge. Il ne sait pas dire pourquoi. Mais on doit devenir fou d'être juge dans un tribunal pendant des années. Vera, elle, pense au docteur. Il y a eu 2 meurtres avec du poison. Et quand un docteur donne l'heure d'une mort, tout le monde le croit. Il a pu aussi tuer MacArthur en allant le chercher pour le déjeuner.
« Ce n'est pas bête du tout, » dit Lombard.
« Il faut partir d'ici tout de suite, » dit le docteur.
« Malheureusement, » dit le juge, « la météo ne nous aide pas. Cela va s'améliorer dans 24 heures. Nous serons tous morts dans 24 heures. »
Le juge essaye de le rassurer. Il y a déjà 3 morts, mais maintenant, ils connaissent la situation. Ils peuvent se défendre. Surtout que le juge a son idée sur le coupable.
« Je n'ai pas de preuves, mais je sais très bien qui est le coupable. »
Mademoiselle Brent est dans sa chambre et écrit dans un petit carnet. Il s'est passé une chose terrible. Elle raconte la mort du général et conclut. « Ils se demandent tous qui est le coupable, et je suis la seule à savoir. La meurtrière est Béatrice Taylor. » Elle ferme les yeux, puis se réveille en sursaut et regarde son carnet.
« J'ai écrit cela, moi ? Je deviens folle !»
Les invités sont tous assis dans le salon et s'observent. Rogers entre avec du thé. Il ferme les rideaux et allume les lampes. Cela met un peu de gaieté dans la pièce. Demain, la tempête sera finie et un bateau viendra les chercher. Mademoiselle Brent a perdu 2 de ses pelotes de laine. Vera sert le thé, comme on le sert toujours à 5 heures. Cela donne un air normal à leur après-midi. Lombard et Blore font une remarque amusante. Le docteur Armstrong raconte une histoire drôle. Même le juge boit du thé, lui qui déteste cela normalement. Rogers revient dans la pièce et dit
« Le rideau rouge de la salle de bain a disparu. Quelqu'un sait où il est ?»
Ils se regardent sans comprendre. Cette disparition est étrange, mais tout, depuis le début, est étrange. Après le dîner, ils s'installent dans le salon. À 9 heures, Emily Brent et Vera montent se coucher. 1 heure plus tard, les 4 hommes font de même. Rogers reste en bas pour préparer la table du petit déjeuner. Il les entend tourner les clés de la porte de leur chambre. Rogers ferme également à clé les portes du rez-de-chaussée et éteint les lumières. Personne ne viendra prendre une figurine cette nuit. Le lendemain matin, Philippe Lombard frappe à la porte de Blore à 10h25.
« Il est si tard ?» dit Blore. « Que se passe-t-il »
« Rogers a disparu. Il n'est ni dans sa chambre ni ailleurs. » Ils font le tour des chambres. Armstrong et Vera sont déjà habillés. La chambre d'Emily Brent est vide. Il réveille le juge.
« Rogers est peut-être caché et nous observe !» dit Vera.
Restons ensemble jusqu'à ce qu'on le retrouve, dit Lombard.
Il trouve Emily Brent dans le hall. Elle est allée se promener dehors toute seule. Elle n'a pas vu Rogers. Le juge les rejoint. Ils entrent tous dans la salle à manger, le couvert est mis.
Regardez les petits soldats. Il n'en reste plus que 6.
Il découvre Rogers peu de temps après au fond de la cour. Il tient une petite hache dans la main. Il a une blessure profonde à l'arrière de la tête. On l'a tué alors qu'il coupait du bois. Une grande hache est posée contre la porte, mais il n'y a pas d'empreinte dessus.
« Faut-il être fort pour donner ce coup ?» demande le juge au docteur.
« Non.
Une femme peut le faire, si c'est votre question. »
Tout à coup, Vera dit d'une voix presque folle.
« Il y a des abeilles sur l'île ?»
Vera connaît la comptine par cœur. Un couplet dit « 7 petits soldats débitaient du bois, c'est la mort de Rogers ». Le couplet suivant dit « 6 petits soldats s'amusaient au rucher ». Vera éclate de rire.
« Le docteur s'approche d'elle et lui donne une gifle.
« Merci, » dit-elle. « Ça va mieux maintenant. Mademoiselle Brent et moi allons préparer le petit déjeuner. Vous pouvez nous apporter le bois coupé par Rogers pour allumer le feu ?»
Les hommes s'exécutent. Puis Blore fait part à Lombard de son sentiment. « La crise de nerfs de Vera est normale. Mais vous avez entendu Emily Brent ? Elle nous a dit très calmement « Le petit déjeuner sera servi dans une demi-heure. » Cette femme est folle. Elle se prend pour l'instrument de Dieu. Elle passe des heures à lire la Bible dans sa chambre. Et ce matin, elle sort se promener toute seule sous la pluie. Elle n'avait pas peur. C'est donc elle la meurtrière.
« Au moins, vous ne me soupçonnez plus, » répond Lombard.
Les deux hommes se font confiance. Blore raconte alors qu'il a fait un faux témoignage sur Landor contre de l'argent. On a mis Landor en prison, mais bien sûr, Blore ne pouvait pas savoir qu'il allait y mourir.
« Votre vie est en danger maintenant, » dit Lombard. « Vous manquez d'imagination et Onim peut vous tuer quand il veut. »«
Pas du tout. Je fais très attention à moi. Et vous ?»«
J'ai l'habitude des situations difficiles. »
Vera prépare le petit déjeuner. Sa crise de nerfs n'est pas normale. Elle est calme d'ordinaire. Même pendant la noyade de Cyril, elle est restée calme. Tout le monde a parlé de son courage, sauf Hugo. Lui, pourquoi pense-t-elle à cela? Tout est fini.
« Vera, » dit Mademoiselle Brent, « votre toast brûle.
Oh, pardon.
Vous n'avez pas peur, vous ?»
Les Brent ne connaissent pas la peur. Les autres vont mourir, mais pas elle. Elle n'a aucune raison de mourir.
Mademoiselle Brent pense à son rêve de cette nuit. Béatrice Taylor était dehors et voulait entrer.
L'ambiance est étrange lors du petit déjeuner. Puis le juge leur donne rendez-vous 30 minutes plus tard dans le salon pour faire le point. Tout le monde aide à ranger, sauf Emily Brent, qui ne se sent pas très bien. Le docteur propose de lui donner un médicament, mais elle répond d'un non qui surprend l'assemblée. Bien sûr, elle se méfie du docteur. Elle reste seule dans la salle à manger et s'endort petit à petit. Un peu plus tard, elle entend une abeille. Elle ouvre les yeux. L'abeille est sur la vitre de la fenêtre. Vera a parlé d'abeille ce matin. Soudain, Mademoiselle Brent sent une présence. Il y a quelqu'un dans la pièce. C'est Béatrice Taylor ? Elle entend des pas, mais elle ne peut pas appeler. Puis elle sent la piqûre de l'abeille dans son cou. Pendant ce temps, le groupe commence à se réunir dans le salon. Vera propose d'aller chercher Emily Brent, mais Blore veut d'abord leur expliquer sa théorie. Il est certain qu'Emily Brent est l'assassin. D'ailleurs, c'est la seule à ne pas avoir expliqué l'accusation du disque.
« Ce n'est pas vrai, » dit Vera. « Elle m'a tout raconté. »
Vera répète l'histoire de Béatrice Taylor.
« Elle n'a eu aucun remords après le suicide de cette jeune femme ?» demande le juge. « Il est bientôt 11 heures. Nous pouvons aller la chercher. »
« Vous ne voulez pas d'abord prendre des mesures contre elle ?» demande Blore.
« Non, » dit le juge. « Nous avons des soupçons, mais pas de preuves. Allons dans la salle à manger. »
Il trouve Emily Brent assise dans son fauteuil. Son visage est bleu.
« Elle est morte !» crie Blore.
Le juge Wargrave dit « Encore une de nous qui n'est pas la coupable, mais nous la prenons trop tard. » Le docteur l'examine et remarque une piqûre dans son cou.
« Regardez !» s'écrie Vera. « Une abeille ! Je vous l'ai dit ce matin !»
Mais la marque dans le cou vient d'une seringue, pas d'une abeille. Mademoiselle Brent est sans doute morte à cause d'un poison, comme Anthony Marston. L'abeille est une blague de l'assassin. Cela l'amuse de suivre les couplets de la comptine. Le docteur Armstrong déclare avoir une seringue dans ses affaires. Tous les cinq montent vérifier et constatent que la seringue a disparu. On le regarde d'un air accusateur. Mais quelqu'un a pu lui prendre. Il est médecin, il voyage avec une seringue et des médicaments. Le juge propose de rassembler les objets dangereux comme les médicaments ou le revolver de Lombard. Ils vont ensemble chercher le revolver dans la chambre de Lombard, mais le tiroir de la table est vide. On organise une fouille. Ils fouillent chaque chambre, mais ne trouvent pas le revolver. Ils mettent les médicaments dans un coffre fermé à clé
puis range le coffre dans une armoire fermée à clé. Le juge donne une des clés à Lombard et l'autre clé à Blore. Blore croit savoir où est la seringue. Ils font le tour de la maison et la retrouvent sous la fenêtre de la salle à manger. À côté, il y a une figurine de porcelaine, le cinquième soldat. Le meurtrier a tué Mademoiselle Brent, puis a tout lancé par la fenêtre. Il fouille encore la maison, mais ne trouve pas le revolver. Il se rassemble dans le salon. Une personne à la fois quitte la pièce et les autres attendent son retour. Ils ne sont plus que cinq. Ils ont tous peur. Ils sont cinq ennemis qui deviennent presque des animaux. Le juge reste immobile, l'œil aux aguets. Blore marche lentement, comme un animal prêt à foncer sur une proie. Lombard réagit à tous les bruits. Vera, silencieuse, reste assise et regarde dans le vide. Armstrong a les mains qui tremblent et allume des cigarettes qu'il ne fume pas.
« Il faut faire quelque chose !» dit Armstrong. « On ne peut pas rester comme ça !»«
La tempête va bientôt finir et nous lancerons des signaux !» dit Lombard.
« Nous serons tous morts avant !» dit Armstrong.
« Restons prudents et cela ira !» dit le juge.
Ils déjeunent à l'heure habituelle. Ils mangent des boîtes de conserve debout autour de la table de la salle à manger. Puis ils regagnent ensemble le salon. Ils s'asseyent et ils se regardent. Tous pensent vivre un cauchemar et devenir fous. À 5 heures, Vera propose d'aller faire du thé. Les autres veulent la surveiller et ils l'accompagnent dans la cuisine. De retour dans le salon, Lombard veut allumer les lumières. Mais l'électricité ne fonctionne plus. C'est Rogers qui s'occupe normalement du groupe électrogène. Le juge propose d'utiliser des bougies. À 6h20, Vera monte dans sa chambre. Elle ouvre sa porte et sent une forte odeur de mer. Elle repense à Cyril qui veut nager jusqu'au rocher. Cyril l'énerve. Sans lui, Hugo serait riche. Il l'épouserait puisqu'il l'aime. Elle entend quelqu'un. Hugo ? Est-ce lui dans sa chambre ? Soudain, une main froide se pose sur son cou. Elle hurle. Les hommes se précipitent à son secours.
« Mon Dieu, regardez ça !»
Ils éclairent la chambre avec leurs bougies. Des algues pendent du plafond. Vera se sent faible. Blore lui propose un verre de cognac. Elle n'ose pas le boire et Lombard va chercher une bouteille neuve.
« Buvez !» dit Armstrong. « Vous avez reçu un sacré choc !»«
En tous les cas, voilà un meurtre qui n'a pas réussi !» dit Lombard. On voulait vous faire mourir de peur.
Vera se sent mieux. Elle demande où se trouve le juge. Les hommes se rendent compte qu'il n'est pas monté avec eux. Est-il resté dans le salon? Ils l'appellent, puis descendent le chercher. Ils le trouvent assis dans son fauteuil. Deux bougies l'encadrent. Il a une robe rouge et une perruque sur la tête, comme s'habille un juge. Armstrong demande aux autres de ne pas s'approcher. Il se penche et enlève la perruque. Le juge a un trou sur le front.
On l'a tué d'une balle dans la tête.
Vera ramasse la perruque. C'est la pelote de laine perdue par Emily Brent. La robe et le rideau de douche disparus. Lombard éclate de rire.
5 petits soldats étudiaient le droit. L'un d'eux fut nommé juge, ma foi, n'en resta plus que 4.
Le juge ne condamnera plus jamais. Edward Seton doit bien rire là-haut. Les autres sont choqués.
Ce matin, vous le pensiez coupable.
Je me trompais.
Encore un innocent qu'on découvre trop tard.